Actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
Bonjour à tous, prenez la parole sur RFI, cet appel sur l'actualité jusqu'à 9h temps universel avec comme chaque jour notre débat après le journal Afrique. Ce matin sur les relations entre politique et religion après la décision du parti tunisien Ennahda d'abandonner son caractère islamiste. Désormais ses activités politiques et religieuses seront indépendantes. Dites-nous ce que ça vous inspire et ce que vous constatez dans votre pays. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour participer, c'est le 33 9 693 693 70. Vous pouvez aussi nous écrire, appel avec un s.actu@rfi.fr et bien sûr les réseaux sociaux Facebook et Twitter. C'est ainsi que vous nous avez contactés pour nous poser vos questions sur l'actualité. On va y répondre. Ce matin, on va parler du bouclier antimissile des États-Unis en Europe, du traitement des déchets nucléaires en France, mais d'abord de politique sud-africaine. Bonjour Alexandra Branjon. Vous êtes notre correspondante à Johannesburg. Vous êtes en ligne avec nous pour répondre aux questions d'Arfan, notre auditeur qui nous appelle de Dakar. Bonjour Arfan.
Bonjour Marie, comment vous allez ?
Ça va très bien, merci. Bienvenue sur RFI. Arfan, Alexandra Branjon et les auditeurs, écoutent vos questions sur l'actualité.
Bon, avant de parler, je voulais parler de l'intérêt de cette émission parce qu'elle est la meilleure pour moi. Elle m'a permis de voyager et de connaître certains endroits du monde sans utiliser un moyen de transport. Merci beaucoup.
Merci à vous Arfan pour ces compliments. On vous écoute maintenant sur la politique sud-africaine.
Les députés sud-africains ont été suspendus suite à une bagarre au Parlement. Qu'est-ce qui a déclenché cette bagarre ? Est-ce un peu médiatique ? Qui sont les députés suspendus ? Est-ce que l'attitude du parti est efficace ? Est-ce que cela participe à sa popularité ?
Alors, il y a une semaine, effectivement, 25 députés ont été suspendus après des violences. C'était lors d'une séance de questions-réponses au Parlement. On va d'abord revenir sur le contexte de ces événements. Alexandra Branjon, ces élus voulaient en fait empêcher le chef de l'État de s'exprimer car ils ne reconnaissent plus l'autorité de Jacob Zuma à cause des affaires dans lesquelles il est cité. Mais Alexandra, le président n'est pas prêt de quitter le pouvoir. La justice lui accorde un nouveau répit. Le procureur a décidé de ne pas rétablir près de 800 chefs d'accusation qui pesaient contre lui.
Oui, tout à fait. 783 chefs d'accusation, plus précisément, pour corruption, fraude et racket. Alors, il s'agit d'une vieille affaire. Les poursuites datent de 2007, à l'époque où président Jacob Zuma était président du parti, l'ANC. Il est accusé d'avoir empoché des pots de vin dans le cadre d'un contrat d'armement avec plusieurs sociétés, dont le français Thales. Donc, c'était en 2007. Deux ans plus tard, quelques semaines avant son élection à la tête de l'État, les poursuites sont abandonnées pour vice de procédure. Depuis, l'opposition se bat pour que le dossier soit rouvert. Ça a pris des années. Et le mois dernier, la Haute Cour de Pretoria a jugé que la décision d'abandonner ses charges était irrationnelle et elle estimait qu'elle devait être revue. Sauf qu'hier, écoutez, nouveau coup de théâtre, le procureur de la République a annoncé qu'il s'opposait à ce que ces poursuites soient rétablies et il a annoncé qu'il faisait appel de cette décision de la Cour de Pretoria. Et puis pour rajouter une couche supplémentaire, tard hier soir, je crois que c'était vers 22h, le chef de l'État a lui-même fait appel de cette décision de la Haute Cour. Donc voilà, une fois de plus, le chef de l'État échappe à des poursuites judiciaires, du moins pour l'instant, parce que là, on est parti pour probablement un an de procédure judiciaire. Donc ça, c'est un des gros scandales que traîne le chef de l'État, l'autre étant celui qui a déclenché donc les bagarres au Parlement la semaine dernière.
Voilà, ces bagarres. Donc on y revient, la suspension de plusieurs députés. Il s'agit de députés des combattants pour la liberté économique, un parti radical de gauche dont le leader est Julius Malema, et notre auditeur de Dakar, Arfan, se demandait ce qui avait déclenché donc ces violences dans l'hémicycle.
Alors, pour expliquer ce qui s'est passé, il faut revenir donc à cet autre scandale qui empoisonne la vie politique sud-africaine. C'est le scandale Nkandla, l'utilisation de 15 millions d'euros d'argent public pour financer la résidence privée du chef de l'État, une résidence ici qu'on appelle Nkandla. C'est une affaire qui traîne également depuis des années. Il y a deux ans, la médiatrice de la République qui est chargée de veiller sur les fonds publics a rendu un rapport après une enquête sur cette affaire et elle a conclu qu'il y avait eu abus de fonds publics et que le chef de l'État devait rembourser une partie de l'argent. Jacob Zuma a catégoriquement refusé. L'affaire a été portée devant les tribunaux par l'opposition. Il y a deux mois, la Cour constitutionnelle, donc c'est la plus haute cour du pays, a conclu que le chef de l'État devait rembourser l'argent, mais surtout, et c'est ça qui est important, c'est qu'il avait enfreint la Constitution en refusant d'obéir à la médiatrice. Et ça a provoqué une vraie crise dans le pays. Est-ce qu'un chef de l'État qui viole la Constitution peut rester en exercice ?
Oui, on a vu qu'une partie de l'opposition avait décidé de ne plus reconnaître le chef de l'État.
Tout à fait. Certains députés refusent de siéger quand il est présent dans l'hémicycle et d'autres, comme les députés du Parti radical de Julius Malema, qui sont impliqués dans cette bagarre, refusent qu'il s'exprime devant l'Assemblée. Donc mardi dernier, avant même que le chef de l'État ne prenne la parole, ils sont intervenus pour demander à ce que le président ne soit pas autorisé à s'exprimer tant qu'il n'y aura pas eu de sanctions à son encontre pour avoir violé la Constitution. Comme attendu, le débat a dégénéré, des coups de poing ont été échangés et les 25 députés de ce parti ont été expulsés de l'hémicycle par le service de sécurité. Voilà, en résumé, cet incident.
Et on en vient donc à la deuxième question de notre auditeur Arfan à Dakar. Qui sont les députés suspendus après cette affaire ?
Bon, vous l'avez dit, il s'agit des députés, des combattants pour la liberté économique. C'est un parti de gauche radicale fondé par Julius Malema. C'est un tout nouveau parti. Les députés siègent à l'Assemblée depuis un peu plus d'un an. Mais ils ont très rapidement réussi à devenir la deuxième force d'opposition au Parlement. Ils se veulent les défenseurs des pauvres, de la classe ouvrière. Et donc, c'est souvent pour ça qu'ils sont habillés soit en femmes de ménage, soit en mineurs, et de rouge, la couleur révolutionnaire. D'ailleurs, certains portent des casques, casque de mineurs. Ils estiment que le reste de l'opposition est trop docile face à l'ANC, le parti au pouvoir, et eux ont pris le parti d'interpeller, de provoquer l'ANC afin d'obtenir des réponses. Et donc, ils sont connus pour leur éclat de voix et se font régulièrement expulser de l'hémicycle et suspendre. Mais c'est à chaque fois juste pour quelques jours.
Et notre auditeur se demande justement alors si cette attitude assez pugnace est efficace et est-ce qu'elle participe à la popularité du parti de Julius Malema ?
Écoutez, leur comportement provoque évidemment un vrai débat ici sur l'attitude que doit avoir un parlementaire. Alors d'un côté, ils irritent de nombreux électeurs, ça c'est sûr, les électeurs, les intellectuels, les députés, les hommes politiques, qui estiment que ces députés radicaux ont une attitude peu parlementaire, peu respectueuse de l'institution et qu'ils transforment l'Assemblée en cirque. D'un autre côté, avec leur comportement brouillant, ils réussissent à susciter l'intérêt des Sud-Africains qui maintenant suivent les débats, surtout à la télé, surtout quand le chef de l'État est présent dans l'hémicycle. Donc ils réussissent à focaliser l'attention sur ce que font ou ne font pas les hommes politiques. Par exemple, je reprends le scandale Nkandla. Quand ils interpellent le président dans l'hémicycle en scandant « rendez l'argent », eh bien le lendemain, tout le pays en parle et ils replacent ce scandale au centre du débat afin que cette affaire ne soit pas oubliée. Alors certes, c'est un procédé peu parlementaire, mais qui séduit une partie de l'électorat, c'est sûr.
Alors justement, les échauffourées dont on parlait, est-ce qu'ils participent à la popularité du parti de Julius Malema ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un parti qui chasse sur les terres du parti au pouvoir et en récupérant les déçus de l'ANC. Et surtout les jeunes qui sont plus exigeants, plus revendicatifs que leurs parents et qui veulent une vraie opposition plus musclée, plus vocale dans l'hémicycle. Donc, c'est un parti qui explose. On l'a vu il y a quelques semaines, ils ont lancé leur campagne pour les élections à venir et la mobilisation était impressionnante, beaucoup plus importante que celle du parti au pouvoir, l'ANC, et beaucoup plus importante que celle du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Donc maintenant on verra, le vrai test sera au mois d'août, lors des élections municipales. C'est là qu'on pourra réellement mesurer leur ancrage politique.
Merci beaucoup Alexandra Bonjon d'avoir été en direct avec nous de Johannesburg pour nous parler de l'actualité toute récente pour le président Jacob Zuma et pour être revenu sur ces violences dans le Parlement qui ont fait poser des questions ce matin à Arfan, notre auditeur de Dakar. Dakar au Sénégal où il est 8h19 comme en temps universel. Une deuxième question dans cette première partie d'appel sur l'actualité nous est posée par Gilbert qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Gilbert.
Bonjour Marie, vous allez bien ?
Ça va très bien Gilbert, bienvenue sur l'antenne, on écoute votre question.
Oui, jeudi 12 mai, les États-Unis ont inauguré l'installation d'un bouclier antimissile, ce qui inquiète vivement la Russie. À ce sujet, j'ai une série de questions. Quelles sont les raisons de ce lancement ? Quel impact sur le plan politique, stratégique et militaire ? Enfin, pourquoi la Russie est-elle aussi inquiète ?
Alors, cette nouvelle étape du projet de bouclier américain en Europe, on va en parler donc avec Olivier Four, spécialiste des questions de défense à RFI. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut répondre alors à Gilbert sur les liens entre ce projet et d'éventuelles menaces russes?
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le lancement de ce bouclier, ce n'est pas la conséquence des tensions actuelles entre l'OTAN et la Russie. Ce programme de bouclier antimissile a été lancé au début des années 2000 par le président George Bush. Et donc, petit à petit, en dépit de l'opposition russe, de l'adaptation du système sous l'administration Obama, des changements politiques en Europe et au Moyen-Orient, eh bien, ce bouclier se met en place. Il y a eu tout d'abord l'installation d'un radar d'alerte avancée dans l'est de la Turquie, puis des croiseurs américains Aegis ont été basés à Rota, en Espagne, avec des missiles. Ils peuvent se déployer en Méditerranée et au-delà. Et puis, il y a donc ces 24 missiles, cette base de missiles en Roumanie, sur la base de Veselu. Et en principe, en 2018, il y aura une autre base, cette fois-ci en Pologne. Elle sera déclarée opérationnelle. Le centre de commandement et de contrôle est quant à lui sur une base aérienne en Allemagne, la base aérienne de Ramstein. Au final, c'est toute l'Europe qui devrait bénéficier d'une architecture de défense antimissile coordonnée par l'OTAN pour la protection des populations européennes. C'est ce qui avait été annoncé, souvenez-vous, lors du sommet de l'OTAN à Lisbonne en 2010. C'est une évolution notable, car au départ, les Américains parlaient de défense antimissile nationale. Donc, pour schématiser, toutes les bases dans le monde n'avaient qu'un seul but: protéger le territoire des États-Unis d'une attaque balistique. Puis, en 2012, Obama a revu le programme en lançant l'approche adaptative progressive en Europe basée sur un système déjà existant, le système de missiles SM-3. Pour faire simple, un système plus fiable, plus flexible que le premier envisagé par George Bush père.
Et alors, contre qui est dirigée cette installation, Olivier?
Alors, officiellement, le système actuel est un bouclier destiné à protéger d'une attaque de moyenne envergure venant du sud-est de l'Europe, clairement le Moyen-Orient, et venant des États voyous. Alors, on parle évidemment de la Corée du Nord. Et puis, à l'époque, on parlait aussi de l'Iran, même si on sait aujourd'hui que les Iraniens ont officiellement renoncé à leur programme nucléaire, mais pas à leur programme de fusées de missiles balistiques, donc. Alors, maintenant, on ne parle plus vraiment d'États voyous, mais on parle de menaces émergentes. Mais en fait, c'est à peu près la même chose. Donc, Gilbert, vous voyez bien que c'est un système qui se met en place brique après brique, avec un calendrier technique à tenir, mais aussi un système suffisamment flexible pour s'adapter éventuellement au changement politique. Moins de systèmes fixes au sol, plus de systèmes en mer, plus de systèmes mobiles.
Voilà. Alors Gilbert, notre auditeur de Douala, qui s'interroge sur l'impact de cette installation américaine sur le plan politique, stratégique, militaire.
Alors sur le plan politique, évidemment, ça vient jeter de l'huile sur le feu, puisque c'est ressenti par la Russie comme une agression. Les Russes considèrent que ce bouclier est dirigé contre eux. Mais ça ne date pas d'hier. En fait, dès les années 2000, c'est ce projet de bouclier qui a commencé à tendre les relations entre l'OTAN et Moscou. Ce qui est sûr, c'est que la Russie considère que l'OTAN se rapproche de plus en plus de sa frontière. C'est vrai que dans le sud de l'Europe, les côtes roumaines ne sont qu'à quelques centaines de kilomètres de la Crimée et de la base russe de Sébastopol. C'est vrai qu'en Europe du Nord et en Europe de l'Est, la Pologne est membre de l'OTAN depuis 1999, les Pays-Baltes également. Par exemple, depuis Narva en Estonie, les troupes de l'Alliance Atlantique ne sont qu'à 130 kilomètres de Saint-Pétersbourg. De notre côté, l'inauguration de la base d'intercepteurs en Roumanie vient un peu plus ancrer la Roumanie dans le club otanien. C'est important pour la Roumanie. La Roumanie est membre de l'OTAN depuis 2004. Et souvenez-vous que pendant la crise en Crimée, la Roumanie s'est retrouvée d'une certaine manière en première ligne, les Américains, les Européens, déployant leur système d'écoute et leurs avions tueurs de chars à seulement 200 km de l'Ukraine. Là, le message était clair de la part de l'OTAN, c'était la ligne à ne pas dépasser. Alors aujourd'hui, la Russie assure que ce déploiement est une violation du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire en vigueur depuis 1988. En clair, l'argument des Russes, c'est de dire: si vous développez un système destiné à contrer notre dissuasion nucléaire, vous rompez d'une certaine manière l'équilibre des forces, et donc nous allons trouver la solution en développant de nouveaux armements. C'est une nouvelle course aux armements.
Alors Gilbert le disait, ce projet inquiète la Russie, mais pour quelle raison?
Mais dans cette affaire, il y a de l'irrationnel. Il y a aussi l'utilisation de la notion de menace à des fins de politique intérieure, et puis il y a des aspects techniques. L'irrationnel, c'est qu'une partie des Russes continue de croire qu'un jour ou l'autre, la Russie sera confrontée à une guerre contre l'OTAN. Et bien sûr, ça sert la politique de Poutine, qui n'hésite pas à jouer, vous le savez, sur la corde patriotique, voire nationaliste, sur le mode « la Russie est encerclée, mais nous protégeons la Rodina, la mère patrie, et partout où les peuples russes seront menacés, nous viendrons les défendre ». Et puis, il y a des aspects techniques. On parle de 24 intercepteurs. Si on ajoute les 24 intercepteurs en Pologne, plus ceux qui sont donc en Roumanie, finalement, on se rend compte que par rapport aux 300 missiles balistiques basés à terre en Russie, ça représente pas grand-chose. Donc, en fait, c'est aussi un bouclier qui implique des conséquences politiques importantes, mais qui, d'un point de vue stratégique, ne serait pas forcément très efficace.
Merci beaucoup, Olivier Four, d'avoir été avec nous en studio pour répondre aux questions de Gilbert qui nous appelait de Douala au Cameroun. 8h25 en temps universel, une troisième question, un troisième auditeur, c'est Armel qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo. Bonjour Armel. Armel, est-ce que vous nous entendez ? Alors, je sens que la ligne avec Pointe-Noire est difficile. Alors, je vais reprendre dans ma voix les questions de notre auditeur Armel. Il s'interroge sur une décision du Sénat français qui a adopté une loi permettant d'enterrer des déchets radioactifs. Il se demandait quelle technique allait être utilisée pour enterrer ces déchets et quelles pouvaient être les conséquences sur l'environnement. C'est Jackie Bonnemain, porte-parole de l'association Robin des Bois, une ONG de protection de l'environnement, qui va lui répondre. Bonjour, Monsieur Bonnemain.
Bonjour.
Alors, cette loi qui a été adoptée par le Sénat le 17 mai stipule, je cite, les modalités de création d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette décision du Sénat, cette loi adoptée ?
Bah, pour répondre à la question d'Armel à Pointe-Noire, ce vote du Sénat ne peut pas, en toute objectivité, être considéré comme un feu vert au stockage géologique de Cigéo dans l'est de la France. Ce stockage, avant d'y accéder, avant d'y arriver, il y a un long chemin législatif. Effectivement, bon, le Sénat a fait un pas en votant quasiment à l'unanimité une loi sur la réversibilité, c'est-à-dire sur la possibilité de reconsidérer le mode de gestion géologique si des risques nouveaux apparaissent ou bien si des possibilités techniques nouvelles apparaissent de gérer les déchets radioactifs différentes du stockage géologique. Maintenant, cette proposition de loi doit être examinée par l'Assemblée nationale et surtout le chemin législatif est encore pavé de nombreux feux verts, ouais. Orange ou rouge.
En fait, Jackie Bonnemain, pour résumer, c'était une loi qui préalable qui était nécessaire finalement à un projet d'enfouissement dans l'est de la France. Vous l'avez dit, on n'y est pas encore. Mais Armel se demandait en fait en quoi consistait cet enfouissement. Qu'est-ce que ça veut dire enfouir des déchets radioactifs ?
Ça veut dire enfouir les déchets à 500 mètres de profondeur dans un massif d'argile. C'est impressionnant quand on descend au fond parce qu'on se rend compte que la Terre est évolutive puisque à 500 mètres de profondeur, j'y suis allé, on a des fossiles de coquillages et on comprend que la mer était là il y a des millions d'années. Et il s'agit donc de mettre les déchets de haute activité produits essentiellement par les centrales nucléaires depuis 1975 dans cet endroit abriter théoriquement des tremblements de terre, des agressions humaines, des perturbations climatiques au moins pendant quelques dizaines de milliers d'années, c'est-à-dire la période de temps où ils sont les plus dangereux. Alors une partie de l'opinion publique est contre. d'autres personnes sont pour. Il est certain qu'on doit avoir une solution disponible pour
on comprend
les déchets de cette
industrie très particulière. En tout cas qu'on n'est pas encore à l'enfouissement des déchets, hein. C'était une première étape, une loi préalable nécessaire. Merci d'avoir été avec nous tout à l'heure. Notre débat juste après le journal.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent. 7 milliards